السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، chers croyants, nous voici déjà dans la dixième intervention, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de cette série visant à méditer les sagesses et les enseignements que l'on peut tirer de ce qui nous arrive actuellement. Et ceci en soi est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de pouvoir jouir de la faculté de méditer les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et jouir de la raison saine, nous permettant d'en faire sortir les sagesses et de les déduire. Cela nous amène donc à parler de cette grande ibada, cette grande adoration, délaissée ou ignorée par beaucoup de gens. On appelle cette ibada, cette adoration, at-tafakkur, la méditation. C'est une adoration qui ne demande aucun effort physique ni financier. Elle peut se faire à tout instant, à tout endroit. Ses fruits sont ô combien bénéfiques pour l'âme du croyant. Elle apporte l'apaisement du cœur, augmente la foi, elle purifie l'âme, et elle est un des moyens permettant de connaître Allah subhanahu wa ta'ala en constatant l'effet de ses noms sublimes et ses attributs parfaits sur la terre qu'il a créée et sur l'ensemble de ses créatures, dont la beauté prouve la beauté de celui qui les a créées, dont la grandeur prouve la grandeur de celui qui les a créées, dont les détails prouvent la science de celui qui les a créées. C'est ainsi que, en méditant, l'on connaît Allah davantage, subhanahu wa ta'ala. Le Coran regorge de versets faisant la mention de la méditation, tellement elle est nécessaire pour la vie des cœurs. En réalité, la réflexion et les pensées représentent la base de tout bien et tout mal. Ce qui pousse la personne à agir ou délaisser, à aimer ou détester, ce sont les pensées qui traversent son esprit. Le bonheur ou le malheur de chacun commence par la réflexion. Les meilleures réflexions sont celles rattachées à l'au-delà et aux moyens d'y arriver, agréées par Allah Azza wa Jal, ainsi que les causes amenant à la perdition dans l'au-delà afin de s'en protéger. Ce sont les pensées les plus importantes pour la personne. Viennent après elles les pensées en relation avec les intérêts mondains et les moyens d'y parvenir, ainsi que les préjudices et les causes menant à la perte mondaine. Voilà autour de quoi tournent les réflexions des gens qui sont doués de raison. Et les meilleures de toutes ces réflexions sont les méditations sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses ordres, ses interdits, et les moyens menant à la connaissance de ses noms et attributs sublimes, son livre, ainsi que la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, si le serviteur pense à l'au-delà, à sa valeur et à son éternité, et s'il réfléchit à ce bas monde, à sa médiocrité et à son caractère éphémère, cela fera naître en lui le désir de l'au-delà et le délaissement de ce bas monde. Plus le serviteur réfléchit de cette façon, plus il fera tout ce qui est en son pouvoir pour tirer profit de son temps. Car la perte de temps est due à l'occupation de l'esprit par des pensées mauvaises ou inutiles. Quant aux pensées malsaines et mauvaises, elles sont à l'opposé de celles que nous venons de citer, puisqu'elles n'apportent aucun bien au serviteur. Elles sont même très souvent la cause de l'anxiété constatée chez les gens, chez un bon nombre de gens, de la tristesse, de l'inquiétude, des wasawis, des insufflations de shaitan, qui sont une cause ou une occasion se présentant à Iblis pour égarer la personne. Car l'égarement de la personne, chers croyants, commence par des réflexions qu'elle a eues. Et le cœur ne se vide jamais de pensées. Mais la personne choisit ce à quoi elle voudra penser. Et dans ce domaine, certains sont privés d'un énorme bien à cause de la barrière de l'insouciance et l'importance excessive accordée à cette dunya et ses plaisirs éphémères. D'autres se sont vus honorés par leur Seigneur qui leur a donné une énorme part. Et ceci est sa grâce, il en fait don à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Après cette introduction présentative de ce sujet, très peu connu par beaucoup de gens, sachez, chers frères, chers croyants et croyantes, que l'une des premières choses faites par le prophète alayhi salatu wassalam, c'est justement la méditation. Ceci avant même qu'il ne soit déclaré prophète et que ne vienne à lui Jibril alayhi salam pour lui révéler les premiers versets du Coran. D'après Aïcha, la mère des croyants, radiyallahu anha, قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد. عائشة كالله لغري nous dit la première chose qui venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la révélation, ce sont des rêves pieux qu'il faisait pendant son sommeil. Il ne voyait aucune chose en ce sens sans qu'elle ne se produise comme l'éclat de l'aube naissante. On lui a ensuite fait aimer l'isolation. Il s'isolait de son peuple, alayhi salatu wa sallam, et se rendait dans la fameuse grotte appelée Hira, où il s'adonnait à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et ceci se manifestait à travers la méditation de la création d'Allah Subhanahu. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas du tout en accord avec son peuple de polythéistes qui s'adonnait à l'adoration des idoles. Mais il n'avait pas encore eu la révélation. Il n'était pas encore un messager, il ne connaissait pas le livre, alayhi salatu wassalam. Alors, il s'isolait de son peuple et méditait sur les signes d'Allah dans sa création, subhanahu wa ta'ala. Je vous invite maintenant à écouter quelques versets faisant la mention de la méditation sur des signes d'Allah, subhanahu, ou sur des bienfaits d'Allah et d'autres choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Dans le sens rapproché des versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: en vérité, il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour des gens doués de raison. Ceux qui debout, assis et couchés sur leur côté, évoquent leur Seigneur, évoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre en disant « Ô Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Exempt sois-tu de toute imperfection. Garde-nous du châtiment du feu. Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couvres vraiment d'ignominie. » Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de ses serviteurs qui ont su méditer ses créatures. Cette méditation les a conduits à attester avec certitude que tout cela n'a pas été créé vainement. C'est impossible Lorsque l'on constate le ciel, la terre, la perfection des créatures s'y trouvant, que cela soit créé inutilement, sans but. Dès lors qu'ils ont su cela et en ont témoigné, ils ont su qu'il en découle forcément qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné des ordres, des interdits. Il nous a promis une récompense et menacé d'une punition, subhanallah. Et quand ils ont su que la création implique une récompense ou un châtiment, ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de les épargner du châtiment. Voyez à quoi les amène la méditation des cieux et de la terre. À l'opposé de ces gens-là, il y a ceux qui ne méditent pas sur la création des cieux et de la terre, au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a parlé en disant « وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ » Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et tout ce qui existe entre eux vainement. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Voyez ainsi la différence entre ceux qui savent faire marcher leur raisonnement sain, si bien qu'ils méditent les créatures d'Allah, ils en ressortent avec une croyance aqida, avec un attachement à Allah, avec la croyance au jour dernier. Alors que ceux qui ne méditent pas, ils passent à côté des signes d'Allah sans les comprendre. Un autre signe, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامِ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ » Dans le sens rapproché du verset, Allah Azza wa Jal nous dit « La vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel. » La comparaison qui va suivre est celle de la vie d'ici-bas à laquelle les gens sont tant attachés. La vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel et qui se mélange à la végétation de la terre dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis, lorsque la terre prend sa parure et s'embellit et que ses habitants pensent qu'elle est à leur entière disposition, notre ordre lui vient de jour ou de nuit. C'est alors que nous la rendrons toute moissonnée, comme si elle n'avait pas été florissante la veille. Ainsi exposons-nous les preuves pour des gens qui méditent. Voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait ressembler cette vie d'ici-bas qui a séduit les gens, qui a séduit la personne qui la désire au point d'avoir été trompée et penser qu'elle lui appartient. Et voici qu'elle disparaît subitement comme si elle n'avait jamais existé. À l'image d'une terre sur laquelle descend la pluie. Ses végétations poussent et augmentent au fur et à mesure du temps, au point où la personne pense la posséder. Elle se sent riche, et voilà que cette terre est atteinte et finit par disparaître et devenir aride. Ainsi est la réalité de cette dunya, de cette vie d'ici-bas. Mais pour qui ? Pour celui qui la médite. Quant à l'insouciant qui se détourne, les signes ne lui seront et ne lui sont d'aucune utilité. Un autre signe dont nous parle Allah subhanahu. قال عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Dans le sens rapproché du verset ou des versets. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre sort un liquide, une liqueur aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui méditent. Subhanallah. Dans ces petites créatures que sont les abeilles, qui ont été dirigées par celui qui les a créées, vers différents arbres et endroits afin de butiner, et qui finissent par revenir dans leur petite demeure que sont les ruches, ces ruches qui sont pourtant beaucoup plus stériles que ne le sont les blocs opératoires, d'après les témoignages des spécialistes. Un délicieux liquide sort de leur ventre, le miel, ayant différentes couleurs, différents goûts, en fonction du climat et de l'endroit où elles se trouvent. Ce précieux liquide, le miel, contient une guérison contre un grand nombre de maladies. Voici là une preuve de la perfection du Créateur, Azza wa Jal, et du soin qu'il prend de ses serviteurs. Il est donc le seul à mériter l'amour absolu, ainsi que l'adoration. Mais malheureusement, nous vivons dans cette époque d'insouciance où les gens, lorsqu'ils voient le miel, ne méditent pas tout cela. Ils se contentent de le goûter, de l'apprécier, de le consommer, voire même de le vendre. Wallahu al-musta'an. Ce n'est pas interdit, mais ne pas méditer sur ce signe d'Allah est un grand problème. Également, Allah Azza wa Jal nous dit « أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ » N'ont-ils pas médité en eux-mêmes? Allah n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'à juste raison et pour un terme fixé. Beaucoup de gens cependant ne croient pas en la rencontre de leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala appelle ici les détracteurs de son prophète sallallahu alayhi wa sallam à méditer sur eux-mêmes. Il y a certes en eux des signes permettant de connaître leur Créateur. Il nous a créés, nous les hommes, à partir de cette goutte insignifiante, ce liquide spermatique, qui est devenu une adhérence, puis un embryon, dans lequel va être insufflée l'âme. Il deviendra ensuite un bébé qui naîtra, un jeune garçon, un peu plus âgé, jusqu'à devenir vieux, puis finit par quitter cette vie. Pense-t-il qu'il a été créé de cette façon inutilement, et qu'il n'aura pas d'ordre à observer, ni d'interdit à délaisser? Il y a certes en cela un signe d'Allah. Pour cette raison, certains salafs, pieux prédécesseurs, disaient « Kayfa yatakabbaru al-insan wa qad kharaja makhraj al-bawl marratayn » Comment l'homme peut-il s'enorgueillir, s'enfler d'orgueil, alors qu'il est sorti à deux reprises de l'orifice par lequel sortent les urines? Ceci lorsqu'il est, il était une goutte sortie de l'orifice de son père pour gagner l'utérus de la mère et en sortir lors de l'accouchement. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle aussi à méditer un autre de ces signes. Il nous dit subhanahu wa ta'ala « Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma » إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Allah reprend les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui méditent. » Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de sa toute-puissance et de sa domination sur ses serviteurs, qu'ils soient en éveil ou endormis, vivants ou morts. Le sommeil est une petite mort pendant laquelle l'âme est reprise temporairement par Allah Azza wa Jal. S'il en décide autrement, il ne rend pas son âme au corps, et c'est alors que la vraie mort arrivera à ce corps. D'où l'importance de l'invocation du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lorsque il nous dit إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons radiyallahu anhum, quand l'un d'entre vous va prendre sa couche, qu'il passe l'intérieur de son izar. Le izar, c'est le pagne, c'est le vêtement qu'il portait sur le bas du corps. Qu'il passe ce vêtement sur le matelas, comme s'il voulait enlever les poussières ou autre, car l'un d'entre vous ne sait pas ce qui s'y est posé. Et qu'il dise, c'est-à-dire une fois après s'être couché, dire Bismika Rabbi wa da'atu jambi, c'est en ton nom, ô Seigneur, que j'ai couché mon flanc. Wa bika arfa'u, et c'est en ton nom que je le lèverai. In amsakta nafsi farhamha, si tu retiens mon âme, alors fais-lui miséricorde. Wa in arsaltaha, et si tu la relâches, fa'hfadha, protège-la. Bima tahfadhu bihi 'ibadaka as-salihin, par ce par quoi tu préserves tes serviteurs vertueux. Qu'est-ce qui amène le prophète alayhi salatu wassalam à prononcer et enseigner une telle invocation, si ce n'est la méditation de ce signe qu'est le sommeil, qui ressemble à une mort mineure. Ainsi, la méditation nous emmène à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Également, Allah tabaraka wa ta'ala a dit « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » Dans le sens du verset, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils méditent. L'effet du livre d'Allah, Al-Qur'an, sur un cœur qui médite, qui le lit et le comprend, est indéniable. S'il était descendu sur cette créature inerte qu'est la montagne, elle se serait fendue. Cela montre que les cœurs insouciants au rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sont plus durs que les montagnes, et cela suffit comme châtiment. Ceci car les exhortations du Coran sont les meilleures exhortations. Ce livre contient tout le bien de l'homme, ici-bas et dans l'au-delà. Il a détaillé et exposé ses signes et versets afin que les doués de raison méditent. D'autres versets, il y en a beaucoup plus que ce que nous avons cité, traitent de la méditation des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'on passait maintenant au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, d'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agré ainsi que son père, il dit « Bittu inda khalati maymouna, fatahaddatha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma'a ahlihi sa'a, thumma raqad, falamma kana thuluthu al-layli al-akhir, qa'ada fanazara ila as-sama'i faqal » إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. Dans ce récit, Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agré, nous enseigne qu'il passa la nuit auprès de sa tante Maymouna, une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cours de cette nuit, discuta avec son épouse un instant, un moment, après lequel il s'endormit. Quand vient le dernier tiers de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit en position assise, regarda le ciel avec méditation, et il dit, il y a certes dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour des gens doués de raison. Il se leva ensuite, accomplissa les ablutions, utilisa le siwak pour nettoyer ses dents et pria 11 unités de prière, alayhi salatu wassalam, jusqu'à la prière du Fajr. Également, on a beaucoup de récits dans le domaine de la méditation, notamment Amir al-Mu'minin, Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, qui fut surnommé le cinquième calife, cet homme pieux, vertueux, savant, ascète, ce gouverneur juste et droit. Baka yawman bayna ashabi, fasu'ila an al-buka. Il fut surpris en train de pleurer, en compagnie, des gens qui l'entouraient. On l'interrogea sur la raison de ses pleurs. Voyez ce qu'il répondit. Faqal, fakkartu fi dunya wa ladhatiha wa shahawatiha fa'tabartu minha biha ma takadu shahawatuha tanqadi hatta tukaddiraha mararatuha wa la in lam yakun fiha 'ibratun liman i'tabar inna fiha mawa'idha liman idhakar. Il dit, j'ai médité sur la vie d'ici-bas, ainsi que ses passions et ses plaisirs, et j'en ai tiré des leçons, parmi lesquelles ses plaisirs ne s'arrêtent jamais. Lorsque l'on en termine un autre arrive. Ses plaisirs ne s'arrêtent jamais jusqu'à finir par être souillés. Cette vie d'ici-bas est en réalité souillée par ses plaisirs. Et il y a certes en eux des leçons pour quiconque voudrait les tirer et une exhortation pour quiconque voudrait se rappeler. La femme de Abu Darda, qu'Allah les agrée, a été interrogée par Abdullah ibn Utba qui dit « Sa'altu Umm al-Darda, j'ai interrogé Umm al-Darda, ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ Quelle était la meilleure adoration faite par Abu Darda, Abu Darda qui était un des connaisseurs du livre d'Allah et de ses enseignants, subhanahu wa ta'ala. Quelle est la meilleure adoration que cet homme qui connaissait bien le livre d'Allah faisait? Elle répondit, التفكر والاعتبار. C'est la méditation et la réflexion qui fait tirer des leçons. Également, d'après Amir ibn Abd al-Qais, il dit سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَا ثْنَيْنِ وَلَا ثَلَاثَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُونَ إِنَّ ضِيَاءَ الْإِيمَانِ أَوْ نُورَ الْإِيمَانِ التَّفَكُّرُ. Amir ibn Abd al-Qais, un des pieux prédécesseurs, dit j'ai entendu plus d'un, plus de deux et plus de trois parmi les compagnons du prophète Mohammed alayhi salat wa salam dire, certes, la lumière de la foi, la resplendissance de la foi, se manifeste dans la méditation. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, Inna min afdalil amal al-wara' wa al-tafakkur, fait partie des meilleures actions, le fait de renoncer par prudence à ce dont on n'a pas besoin, et la méditation. Abu Sulayman al-Darani, rahimahullah, a dit, « Inni la akhruju min manzili, fama yaqa'u basari ala shay'in illa ra'aytu lillahi fihi ni'mah, waliya fihi ibrah. » Chaque fois que je sors de ma maison, mon regard ne se pose sur aucune chose sans que je n'y voie un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et une leçon à en tirer. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit Anfa'u ad-dawa an tashghala nafsaka bil fikri fi ma ya'nik duna ma la ya'nik. Et je vous invite à bien méditer ces paroles. Le remède le plus efficace consiste à ce que tu occupes ta personne, ton esprit et tes pensées dans ce qui te concerne, en délaissant ce qui ne te concerne pas, ce qui ne t'est pas utile, qui ne te concerne pas. فَالْفِكْرُ فِي مَا لَا يَعْنِي باب كل شر. Pensez à ce qui ne te concerne pas est la porte ouverte à tous les maux. ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه. Et quiconque s'occupe son esprit et ses pensées dans ce qui ne lui est pas utile, dans ce qui ne le concerne pas, va perdre ce qui le concerne. واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه. Il sera alors distrait des choses les plus utiles pour lui par les choses qui sont pour lui inutiles. فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك. Les pensées, les réflexions, les envies d'agir et autres sont les choses en toi qui sont le plus en droit d'être réformées. فَإِنَّ هَذِهِ خَاصَّتُكَ وَحَقِيقَتُكَ الَّتِي لَا تَبْتَعِدُ أَوْ تَقْتَرِبُ مِنْ إِلَهِكَ وَمَعْبُودِكَ الَّذِي لَا سَعَادَةَ لَكَ إِلَّا فِي قُرْبِهِ وَرِضَاهُ عَنْكَ إِلَّا بِهَا وَكُلُّ الشَّقَى فِي بُعْدِكَ عَنْهُ وَسَخَطِهِ عَلَيْكَ وَمَنْ كَانَ فِي خَوَاطِرِهِ وَمَجَالَاتِ فِكْرِهِ دَنِيئًا خَسِيسًا لَمْ يَكُنْ فِي سَائِرِ أَمْرِهِ إِلَّا كَذَلِكَ. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ce grand savant nous dit que les pensées, c'est ce qu'il y a de plus proche en toi. Elles représentent la réalité de ce que tu es. C'est avec celles-ci que tu te rapproches ou t'éloignes de la divinité que tu adores, qui est Allah Azza wa Jal, ton Seigneur. Et il n'y a de joie ni de bonheur que dans la proximité avec ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et toute la tristesse réside dans l'éloignement de ton Seigneur. Et celui parmi les gens dont les pensées et l'esprit sont occupés avec des choses futiles et basses, eh bien il sera dans toutes les choses de sa vie ainsi. Il sera bas et fera ce qui est futile. Qu'Allah nous en préserve. Ainsi la méditation est une grande adoration. Elle renferme plein de sagesse et beaucoup d'intérêts, parmi lesquels la méditation est une voie qui amène et conduit à l'agrément d'Allah et à son amour. Subhanallah. Quand la personne médite sur ce qu'elle voit dans sa vie, sur les bienfaits par lesquels elle s'est vue honorée par Allah, cela suscite dans son cœur l'amour pour Allah, subhanahu le bienfaiteur. Également, la méditation détend et apaise les cœurs et épanouit la poitrine de la personne. La méditation fait naître en la personne la crainte d'Allah, car si elle voit dans la créature, dans les créatures d'Allah, la puissance d'Allah, si elle voit dans ce qui se passe à titre d'exemple, ce qu'Allah a fait et a décrété par sagesse parfaite, le nombre de personnes tombées malades, le nombre de personnes qui nous ont quittés, et peut-être qu'ils vont nous quitter, et que, comme nous l'avons vu précédemment dans une intervention, cela est dû très souvent à la désobéissance de l'homme, et bien ça fait naître la crainte d'Allah et donc l'envie de lui obéir. La méditation amène à la personne la vie de son cœur et la sagesse. La méditation fait que la personne tire beaucoup de leçons dans sa vie. La méditation renforce l'esprit et le raisonnement de la personne. Ainsi, la personne devient quelqu'un de vif, quelqu'un à l'esprit vif, qui comprend rapidement et qui est intelligent. Ainsi, chers croyants et croyantes, s'achève cette intervention, certes, mais aussi cette série d'interventions qui portait sur ce que nous avons appris de ce virus. Et l'on pourrait s'étaler, mais le but n'était pas de dépasser 10 interventions, le but a été atteint, et j'espère qu'à travers cela, on sera tiré profit, et que ces interventions ont été pour nous et pour vous des plus bénéfiques. J'espère que ce travail a été dédié et voué à Allah seul et sans associé uniquement, et qu'il sera la cause du pardon des nombreux péchés et défauts de celui qui s'adresse à vous, ainsi que de ceux qui l'ont écouté. Wallahu al-musta'an wa astaghfirullah wa atubu ilayh. Cette série d'interventions, certes, s'arrête, mais les interventions, elles, vont continuer. Dès demain, inshallah ta'ala, nous continuerons sur l'étude d'un épître, d'un écrit, bref et concis, mais très riche dans ce qu'il contient, car il traite de la manière d'accéder à la joie dans la vie. Il est intitulé « Al-wasa'il al-mufida lil-hayat al-sa'ida » Les moyens utiles pour une vie heureuse. Je vous présenterai cet écrit, inshallah, demain. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaghfira lana, qu'Allah fasse miséricorde à nous tous et qu'il guérisse nos frères, nos sœurs touchés par cette maladie, qu'il fasse miséricorde à ceux parmi eux et elles qui sont décédés, tels que le beau-père du frère Abu Bakr, rahimahullah, rahmah wasi'a. Qu'Allah nous pardonne. جزاكم الله خيرا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك